France Inter, il est 13h. Le journal, Bruno Duvic.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le journal de 13h. Au sommaire aujourd'hui, un séisme fort, 5,4 de magnitude dans la Drôme, épicentre Montélimar. Secousse ressentie dans une bonne partie de la vallée du Rhône, de Grenoble à Avignon. Un premier témoignage dans un instant. L'extrême droite monte en puissance. En Espagne aussi, 52 députés au Cortés depuis hier. Le souvenir des années franco ne suffit plus, nous irons en Espagne. L'extrême droite monte à Madrid et un des présidents emblématiques de la gauche en Amérique latine est aux abonnés absents. Le président bolivien Evo Morales, introuvable au lendemain de sa démission. Il y a des violences à La Paz, menaces de chaos dans le pays. Comment en est-on arrivé là? Nous en parlerons avec Olivier Poujade et l'invité du journal de 13h. Les cérémonies du 11 novembre à Paris, quels moyens pour entretenir la flamme? Parole de jeunes participants au service national. Et puis cet après-midi, hommage aux soldats qui ont donné plus récemment leur vie pour la France en ex-Yougoslavie, au Liban ou au Sahel. Dans ce journal encore, une idée d'expo en ce 11 novembre. Bonjour Isabelle Pasquier.
Bonjour.
Gréco Grand Palais, on y va ou pas?
On y va. Bon. Un peintre totalement électrisant, peut-être même le premier peintre pop et expressionniste de l'histoire de l'art.
Vous nous détaillerez tout cela. Comment parler du dernier film de Roman Polanski après les nouvelles accusations de viol? Laurence Bloch, la directrice de France Inter, passera en studio. J'accuse, le film de Polanski est un film France Inter. On l'a entendu juste avant ce journal. 13h30, La Terre au Carré. Bonjour Mathieu Vidard.
Bonjour Bruno.
Quel est le menu aujourd'hui?
On s'intéresse aux droits de la nature. Il est en effet possible dans certains pays de reconnaître des écosystèmes en tant que personnalité juridique. Pourquoi des droits pour la nature? Eh bien, on en parle avec la juriste Valérie Cabanès.
01 45 24 7000 pour les questions. L'émission, c'est à 13h30. France Inter, franceinter.fr. Vous avez le programme pour votre début d'après-midi. C'est parti.
France Inter.
5,4 sur l'échelle de Richter, c'est un tremblement de terre important qui a touché la Drôme ce matin. Des secousses ressenties de Grenoble à Avignon, l'épicentre près de Montélimar. Le village le plus proche de l'épicentre s'appelle Le Teil. Voici une dame qui, elle, s'appelle Françoise et qui est restauratrice au Teil.
J'étais en train de cuisiner et tout a tremblé. J'ai eu l'impression que mon plafond allait s'écrouler. Voilà, j'ai eu très très peur. Je suis sortie et j'ai vu d'autres gens dehors. Donc j'ai compris tout de suite que je n'étais pas la seule, quoi. On m'a d'abord dit qu'il y avait une maison qui s'était écroulée, donc je pensais que c'était la maison écroulée qui avait fait ce remue-ménage, quoi. Et donc ensuite, en sortant, j'ai appris que c'était un réel séisme. Ça a fait énormément de bruit, je vous dis, comme si tout allait tomber, quoi.
Est-ce que vous savez si dans votre commune, au Teil, il y a des dégâts ou pas?
Oui, il y a énormément de dégâts apparemment. Des toits écroulés et des dégâts, des maisons fissurées un peu de partout. J'ai entendu plusieurs voisins qui avaient des fissures dans leur maison. Tout le monde est un petit peu en panique. Les gens sont dehors mais ne savent pas s'ils peuvent rentrer chez eux. Et on attend un petit peu comme des consignes, mais on ne sait pas d'où elles vont venir. Donc voilà.
Voilà pour le témoignage de cette dame Françoise, restauratrice au Teil, où il y a donc des dégâts. Ailleurs, quels sont les dégâts? Pour l'instant, c'est l'heure de l'évaluation des conséquences de cette secousse qui a duré une dizaine de secondes, selon nos confrères de France Bleu Drôme-Ardèche. Des internautes racontent avoir ressenti le séisme dans une grande partie de la vallée du Rhône, à Lyon, à Avignon, à Valence, mais même à Grenoble ou Montpellier. Les pompiers de la Drôme reçoivent de nombreux appels. Ils demandent de ne pas saturer inutilement les lignes d'urgence, sauf si effectivement, il y a une véritable urgence. Il n'y a plus d'exception espagnole. Le souvenir des années franco, il y a à peine plus de 40 ans, a longtemps tenu l'extrême droite loin du Parlement à Madrid. Eh bien, cette année 2019 marque un basculement. Ils étaient 24 députés ultranationalistes et anti-immigration du parti Vox avant les législatives d'hier. C'est plus du double désormais, 52. Bonjour Isabelle Labéry.
Bonjour Bruno.
En direct de Barcelone, comment expliquer, Isabelle, cette montée en puissance?
D'abord par le contexte régional. Vous le savez, Vox est né très récemment, fin 2013. Ses premiers députés ont été élus en avril dernier, donc ils n'ont pas d'expérience, pas de bilan à faire valoir. Mais la crise migratoire et les tensions autour du processus indépendantiste en Catalogne ont offert une double caisse de résonance aux thèses sécuritaires, ultranationalistes du parti, jouant vraiment le rôle d'accélérateur politique. Et puis il y a aussi un autre aspect, c'est la notion de cordon sanitaire qui reste assez flou en Espagne et qui a permis à Vox de s'allier déjà à 3 reprises avec des conservateurs pour participer à la gestion d'une ville ou d'une région. Gabriel Colomé est professeur de sciences politiques à l'Université autonome de Barcelone.
Ici, comme on n'a jamais subi la Première ni la Deuxième Guerre mondiale, on a une autre perception, et en plus on a eu le franquisme. C'est-à-dire que, bon, il n'y a pas de problème, on blanchit, et c'est normal. Et ça, on doit dire non. Parce que tu n'es pas un parti démocratique.
Le patron de Vox, Santiago Abascal, qui refuse le qualificatif d'extrême droite, a utilisé hier une nouvelle terminologie pour son parti, l'alternative patriotique.
Merci Isabelle Labéry en direct de Barcelone. Au-delà de la question de l'extrême droite, autre problème posé à l'Espagne après ses quatrièmes législatives en quatre ans. À nouveau, aucune majorité ne se dégage au Parlement. Le parti socialiste du Premier ministre Sanchez est en tête, mais perd 3 députés. Il n'en reste plus que 120, loin de la majorité absolue à 176. Deuxième parti est la droite, le Parti Populaire. Ensuite, 35 députés pour la gauche de Podemos. 10 seulement pour les libéraux centristes de Ciudadanos, qui avait 57 députés jusque-là. C'est un effondrement. Le dirigeant de Ciudadanos présente sa démission. En tout cas, droite ou gauche, aucune coalition n'est en mesure pour l'instant de former une majorité. Les indépendants indépendantistes catalans envoient 23 députés au Cortès. Des manifestants indépendantistes bloquaient ce matin le passage à la frontière entre la France et l'Espagne. À propos de ces élections espagnoles, commentaire de l'ancienne ministre des Affaires européennes, aujourd'hui députée à Strasbourg, Nathalie Loiseau. Ces résultats incitent à réfléchir avant d'introduire une grande part de proportionnel dans les législatives. En France. Dans le monde hispanique, de l'autre côté de l'Atlantique, une ambiance de chaos règne en Bolivie. C'est l'un de ces pays où la gauche a soulevé l'espoir et gouverné depuis les années 2000. Evo Morales, le premier président indigène élu en 2006. Mais les dernières heures sont beaucoup plus sombres. Sa victoire à la présidentielle d'octobre, 13 ans après sa première élection, était contestée. Des soupçons de fraude, grève générale, manifestation. Tout s'est précipité hier. Morales a d'abord proposé la tenue de nouvelles élections, puis il a démissionné carrément après un appel en sens de l'armée et de la police. Alors, où est-il désormais? Qui dirige le pays? Le pouvoir est vacant, Olivier Poujade.
Oui, personne n'est en mesure, véritablement, de répondre à cette question, alors qu'il est toutes les personnalités susceptibles d'assurer l'intérim après la démission hier soir du président bolivien ont-elles aussi abandonné leur poste? La forteresse d'Evo Morales est brutalement effondrée hier en deux temps, sous la pression, d'abord de la rue, de cette grève générale massivement suivie par la population depuis plus de 10 jours, pression de plus en plus soutenue, de plus en plus ciblée aussi. Les résidences de deux ministres du gouvernement Morales ont été incendiées. L'annonce trop tardive d'Evo Morales de convoquer de nouvelles élections n'a pas suffi à calmer les tensions. En fin de journée, les forces de police se sont à leur tour rangées derrière les manifestants avant que le chef d'état-major de l'armée bolivienne n'appelle Evo Morales à démissionner pour le bien de la Bolivie. Le pays se réveille donc aujourd'hui sans chef d'état et avec un ancien président Morales qui se serait, semble-t-il, réfugié dans son fief du Chaparré, au centre du pays. Il dit être la cible d'un mandat d'arrêt illégal, estime avoir été victime d'un coup d'État, version relayée par tous ses soutiens internationaux ce matin, de l'Argentine au Mexique, en passant par Cuba, le Venezuela et Moscou, qui condamnent ce matin des violences provoquées par l'opposition bolivienne.
Des violences qui par ailleurs ont éclaté à La Paz et dans une ville proche de la capitale bolivienne. Avec nous au téléphone, Sébastien Vélu. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Chercheur à l'Institut des Hautes Études de l'Amérique latine. Comment expliquer que les choses se soient précipitées aussi vite? 3 semaines de manifestations, mais Evo Morales semblait prêt à tenir. Et puis, vraiment, en quelques heures, tout s'est effondré. Comment expliquez-vous cela?
Oui, effectivement. Enfin, vous venez de le dire. On avait depuis 3 semaines de violentes manifestations en Bolivie, des fortes pressions contre le président Morales. Et la violence est devenue plus importante. Il a certainement aussi été menacé, très directement. Et il préfère se retirer pour calmer le jeu. Mais ça a basculé très brutalement.
C'est la police et l'armée qui ont fait pencher la balance?
Manifestement, la déclaration hier de ces deux institutions fait basculer la situation. Oui. Et c'est aussi pour cela qu'on peut parler de coup d'État. C'est-à-dire, c'est vraiment un mécanisme qu'on a malheureusement déjà vu à l'œuvre en Amérique latine, où le président est lâché par les forces de l'ordre et par l'armée, et il n'a plus d'autre choix que de se retirer.
Coup d'État, vous reprendriez cette expression?
Je ne suis pas très enclin à l'employer à tort et à travers, mais là, je pense que ça y ressemble beaucoup.
Qu'est-ce qui vous fait dire ça plus précisément? Parce qu'au fond, ça vient après 3 semaines de manifestations, après des élections contestées, après avec des soupçons de fraude assez importants. Pourquoi parler de coup d'État, Sébastien Vélu?
Alors effectivement, il y a eu des soupçons de fraude sur les dernières élections. La mission d'observation de l'Organisation des États américains a confirmé qu'il y avait eu des irrégularités. Il y a 3 jours, Morales a proposé de refaire l'élection présidentielle, qui au fond était quand même une une démarche d'apaisement qui aurait peut-être permis d'avoir une sortie institutionnelle de la crise. Et là, il est poussé à la démission. Il est poussé à la démission alors que chacun sait que même sans fraude, Morales était arrivé largement premier, il était largement en tête aux élections. Là, il ne va pas pouvoir se présenter, donc il laisse la voie libre à Carlos Mesa, qui était son rival.
Il y a pu y avoir des pressions extérieures ?
C'est possible, mais rien n'a filtré. C'est certain que des pays comme par exemple la Colombie, il y a quelques semaines, s'étonnaient que Morales puisse être à nouveau candidat à la présidence de la République et avait entrepris des démarches pour manifester son désaccord.
Quelles erreurs, au fond, a fait Morales ? Vous le disiez, il aurait pu être réélu lors de la présidentielle il y a trois semaines. Ça se termine beaucoup plus mal pour lui. Il a péché par orgueil en ne voulant pas aller à un second tour ?
C'est peut-être, je pense qu'une des erreurs de fond, c'est d'avoir pas préparé de succession. Il est certain qu'il y a un problème de vouloir faire un quatrième mandat alors qu'il a été déjà 13 ans au pouvoir. Et c'était ça qui était la faiblesse. Donc l'incapacité à préparer la succession, à mon avis, est le principal problème.
Que dire de cette opposition ? Comment en parler ? C'est une opposition à la latino-américaine, c'est-à-dire très radicale, très blanche, très riche. Comment qualifier l'opposition à Evo Morales en Bolivie ?
Il faut quand même dire que la Bolivie a été gouvernée pendant des générations par une partie de l'élite, qui est à la fois une élite blanche et riche, pour dire les choses de façon simple. Et donc Carlos Mesa a été le président avant Morales, et ce sont eux qui cherchent à revenir.
Merci Sébastien Vellu d'avoir répondu à nos questions donc après cette démission d'Evo Morales et cette situation de vacance du pouvoir dans ce pays où ont éclaté des violences ces dernières heures, à La Paz notamment, la capitale.
France Inter, Bruno Duvic.
Cela ne vous aura pas échappé, nous sommes le 11 novembre 2019. Les traditionnelles cérémonies se sont déroulées ce matin à l'Arc de Triomphe à Paris, 101 ans après la fin de la Première Guerre mondiale. Emmanuel Macron a longuement discuté avec les anciens combattants, associations ou proches. Bonjour Nathalie Hernandez.
Bonjour.
Vous avez suivi la cérémonie pour France Inter. Qu'en retient-on, Nathalie ?
Alors oui, effectivement, comme vous le disiez, malgré le temps maussade, hein, Emmanuel Macron aime passer du temps pour échanger avec le monde militaire et les familles. Il a donc rendu hommage aussi à tous ces soldats morts pour la France après la traditionnelle remontée des Champs-Élysées entourée de la garde républicaine à cheval. Le président a ranimé la flamme de la tombe du soldat inconnu. Il a également rendu hommage aux militaires disparus cette année. Ils sont cinq à avoir donné leur vie, dont les deux commandos marines Hubert, tués au Burkina Faso pendant la libération de quatre otages, dont deux touristes français. Le nom du brigadier Ronan Pointeau a lui été aussi cité. C'est le dernier qui est mort dans l'explosion de son véhicule au Mali le 2 novembre dernier. Alors pour continuer d'honorer leur sacrifice, Emmanuel Macron va inaugurer cet après-midi un mémorial dans le 15e arrondissement de la capitale. Ce monument est dédié à tous ceux qui sont morts en opération extérieure depuis 1963, cette quatrième génération du feu. Ils sont 549 soldats, dont deux femmes, à avoir perdu la vie sur 17 théâtres d'opération. Leur nom est désormais inscrit sur un mur qui entoure une sculpture de bronze composée de 6 militaires, 5 hommes et 2 femmes. Ils portent un cercueil invisible.
Nathalie Hernandez, en direct de l'Arc de Triomphe avec Hélène Langlois pour France Inter. Alors comment maintenir 101 ans après la fin de la Première Guerre mondiale l'intensité des cérémonies, le sang? Comment continuer à transmettre la mémoire et rendre hommage aux soldats ? Vous le disiez, Nathalie, il y a donc ce monument pour ceux qui sont morts plus récemment pour la France qui est dévoilé cet après-midi. Et puis, autre fait marquant, à l'Arc de Triomphe ce matin, il y avait 15 jeunes participants au SNU, le Service National Universel. Ils y étaient associés à cette cérémonie. Alors, quel regard, quelles paroles ont-ils prononcé ? Claire Chaudière, vous en avez interrogé quelques-uns.
Oui, j'ai pu rencontrer cette quinzaine de jeunes en uniforme bleu marine du Service National Universel, casquette vissée sur la tête, qui ont passé plus de 2 heures répétition comprise à quelques mètres seulement de la flamme du soldat inconnu. Des jeunes qui étaient donc ce matin en binôme avec d'anciens combattants, Orlan, Rémi et Elisa, venus de Sarcelles et de Cergy, frigorifiés mais ravis.
C'est quelque chose d'impressionnant et qu'on vit qu'une fois dans notre vie. À chaque fois, il nous expliquait qu'est-ce que c'était, qui arrivait, le rôle de chacun. Quand les musiques passaient, il nous disait ça, c'est telle musique. Il y a la marche de Prusse.
On était en face de la flamme, on a vu le ravivement, les bouquets de fleurs qui ont été posés en l'honneur du soldat inconnu.
Le président, il est venu nous serrer la main et tout, parce que le SNU, c'est quelque chose qui va bientôt devenir obligatoire.
Ce dispositif de service national universel va d'abord monter en puissance dès l'an prochain. 30 000 jeunes dès 2020, des jeunes au profil varié, certains très familiers, vous l'avez entendu, de ce type de cérémonie du souvenir, et d'autres beaucoup moins écoutés.
Ça va, il fait froid quand même. J'étais pas trop intéressé en vrai par la cérémonie et tout ça. Du coup, on va dire le SNU, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. C'est une chance d'être là.
Une très grande fierté d'être là. Surtout que je suis sûr que mon grand-père qui est parti serait très content de me voir aux premières loges, d'honorer les militaires, parce que c'était vraiment un truc qu'il adorait. Son père, son grand-père ont été militaires.
Alors à terme, pour ceux qui seront les moins motivés par ce SNU, pas d'objection de conscience, au contraire un système qui empêcherait les réfractaires de passer leur permis ou leur baccalauréat, ce qui fait déjà débat, hein. Mais le dispositif a plu pour sa première édition, martèle le gouvernement, avec même de nombreux jeunes qui ont spontanément participé à des cérémonies du souvenir cet été, notamment dans leur ville ou dans leur village, un peu partout en France.
Merci Claire Chaudière, vous aussi en direct de l'Arc de Triomphe. Et donc cet après-midi, l'inauguration du monument dans le parc André Citroën à l'ouest du pays de Paris pour les soldats morts en ex-Yougoslavie, au Tchad, au Liban, en Afghanistan ou au Sahel dans les années plus récentes. C'est un des films attendus cette semaine. Grand Prix du jury à Venise regarde un cinéaste important sur un épisode majeur de l'histoire de France. J'accuse, le film de Roman Polanski sur l'affaire Dreyfus sort donc mercredi. Sauf que une nouvelle accusation de viol contre le cinéaste surgit. Elle émane de l'actrice Valentine Monnier pour des faits qui remonteraient à 1975. Polanski nie avec la plus grande fermeté, précise son avocat. Ce n'est pas la première accusation contre lui. Il a été condamné en 1977 dans une première affaire. Dans les autres cas, les faits étaient prescrits. À l'heure où la parole des femmes victimes d'agressions dans le cinéma se libère, peut-on parler du film sans évoquer ces accusations, ou à l'inverse, peut-on complètement passer sous silence le long métrage en lui-même? Question posée aux médias, en particulier à France Inter, puisque J'accuse est un film France Inter. Bonjour Laurence Bloch.
Bonjour Bruno.
Directrice de France Inter, est-ce qu'on entendra sur l'antenne d'Inter, Laurence, des acteurs ou des participants au film dans les émissions d'Inter dans les heures ou jours à venir?
Alors on a entendu de grands acteurs dans l'émission cinéma de France Inter samedi dernier.
On
a entendu Dujardin vendredi matin dans le 7-9 de France Inter. Nous avions prévu d'entendre cet après-midi dans Pop 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 Louis Garrel. Alors il se trouve que pour cause du 11 novembre, l'émission était enregistré avant cette nouvelle accusation de viol portée par une femme contre Polanski. Donc d'un commun accord, Antoine Decaune et moi-même avons décidé qu'il était impossible de faire entendre cette émission aux auditeurs, puisque la question de cette nouvelle accusation n'était pas posée et que donc l'émission ne sera pas diffusée. Louis Garrel reviendra dans l'une des émissions de Pop Pop Pop. Et par ailleurs, Augustin Trapenard avait choisi d'interroger l'épouse de Roman Polanski, elle-même actrice dans le film, et Emmanuelle Seigné, elle-même, s'est décommandée de cette émission.
Alors Laurence Bloch, on l'a entendu juste avant ce journal, il y a eu une promo pour J'accuse. C'est un film France Inter. D'abord, c'est peut-être l'occasion de dire, ça veut dire quoi un film France Inter?
Un film France Inter, ça veut dire que c'est vraiment un partenariat de recommandation. C'est-à-dire que l'on considère le service des partenariats de France Inter et la direction que le film, de par son propos, de par la qualité de sa mise en scène, de par l'exemplarité et la qualité de ses acteurs, doit être porté à la connaissance, non seulement porté à la connaissance des auditeurs, mais recommandé. Il n'y a aucun
financement
d'argent. Il n'y a évidemment aucune demande aux critiques de cinéma de France Inter de dire du bien du film. Et je crois que les auditeurs savent que les critiques de la rédaction de France Inter font ce qu'ils ont à faire.
Ou du masque et la plume,
leur métier
parfois.
Et du masque et la plume. Et par ailleurs, vous le disiez, il y a deux choses. Il y a l'homme et le film. Bien évidemment, la rédaction de France Culture fait son boulot par rapport aux accusations qui sont portées contre l'homme.
Et la rédaction de France Inter. Donc ces promos continueront à être sur l'antenne.
Ces promos continuent car France Inter soutient fermement, fortement, absolument ce film qui est un film absolument remarquable sur une affaire qui est importante, l'affaire Dreyfus. Un homme a été condamné par le simple fait qu'il était juif, mais surtout, ce que je trouve très important, c'est le combat d'un homme seul qui risque tout pour que la vérité advienne. C'est le lieutenant-colonel Marie-Georges Picard. Mmh. Je crois que c'est vraiment...
Joué par Dujardin.
Absolument. Mmh. Je crois que c'est un film très important, mais je crois aussi que les auditeurs sont adultes. Et ils feront en conscience ce qu'ils croient devoir faire.
Voilà, le film sort mercredi. Quel accueil le public lui fera-t-il ? Reportage en préparation à la rédaction de France Inter dans un cinéma qui doit présenter une avant-première ce soir, si elle est maintenue. Et puis l'ami Jean Lebrun, lui, profite de cette occasion pour mettre en place une semaine consacrée à cette affaire Dreyfus dans la marche de l'histoire. Cet après-midi, le premier épisode. Merci Laurence.
Merci à vous.
Nous étions tout à l'heure à La Paz, en Bolivie, l'une de ces villes où la foule manifeste et conteste. On aurait pu aussi passer par Santiago, par Caracas, par Beyrouth, par Alger, par Bagdad. Parmi les pays, cités ou régions où la foule se fait entendre ces derniers mois, il y a aussi Hong Kong. 5 mois de manifestations pro-démocratie et ces dernières heures, à nouveau, un manifestant blessé par balle, à balle réelle, par un policier. Mais aussi, peut-être, des crimes commis par les contestataires les plus radicaux et puis la circulation bloquée dans une bonne partie de la ville. Simon Leplâtre, vous êtes sur place pour France Inter. Quelles sont les dernières informations, Simon ?
Bonjour. Oui, les dernières informations, ce sont une conférence de presse de Carrie Lam, la dirigeante de Hong Kong, qui a condamné les violences. Ce matin, les manifestants avaient prévu de bloquer la ville. Ils avaient installé des barrages, entravé certaines lignes de métro, jusqu'à ce que la police les pourchasse. Et puis, c'est ça, à 7h30, ce policier qui a tiré sur des manifestants. L'un a été touché à la jambe, l'autre s'est effondré aussitôt, touché au foie et à un rein. Et dans toute la ville, la tension est montée d'un cran. Et en fin de matinée, vous le disiez, une dispute a eu lieu entre des manifestants et un homme qui soutenait la Chine. Quelqu'un l'a aspergé d'essence et a allumé, le transformant en torche humaine. Par chance, le feu a rapidement été éteint. Il s'en tire avec des brûlures au deuxième degré, mais la scène est particulièrement choquante. La violence, les cocktails Molotov, le vandalisme sont de plus en plus acceptés comme une stratégie politique par une partie des manifestants qui les justifie en disant que les marches pacifiques avec plus d'un million de personnes dans les rues n'ont pas été écoutées par le gouvernement. Et la réaction de Carrie Lam aujourd'hui, qui a simplement condamné les violences mais n'a rien proposé, tente à leur donner raison. En face, la police semble adopter une stratégie plus offensive avec des coups de matraque, tirs de balles en caoutchouc ou jet de gaz lacrymogène systématique, comme s'il cherchait à dissuader les gens de se joindre aux mouvements radicaux. Mais pour l'instant, c'est l'effet inverse qui se produit. Pour une bonne partie de la population, la violence de la police justifie les actions radicales et l'escalade n'en finit pas.
Merci Simon Leplâtre en direct pour France Inter et c'est un instantané de la Chine 2019. Toujours aussi peu d'ouverture politique, on le voit à Hong Kong, mais un capitalisme débridé à bien des égards. C'est aujourd'hui la fête des célibataires dans le pays. Traditionnellement un jour de solde sur les sites de vente en ligne. Voyez la ruée au moment de l'ouverture cette année. En à peine plus d'une minute, $1 milliard ont été dépensés. Chaque lundi, dans le journal de 13h, une archive, c'est encore de l'actualité internationale et c'est un moment d'histoire. Il y a 15 ans, mourait le leader Yasser Arafat à Paris, le leader palestinien. Le 12 novembre 2004, son cercueil arrive à la Moukata, le quartier général du dirigeant à Ramallah. Le convoi mortuaire vient du ciel, 2 hélicoptères. Au sol, il y a une foule énorme et intenable. C'est commenté en direct dans le journal de 13h par les 2 envoyés spéciaux de France Inter. C'est un grand moment de radio. Écoutez Frédéric Barrère et Pierre Veil.
Actuellement, un hélicoptère se pose sur l'esplanade et la foule est toute proche. Il y a un nuage de poussière. Un hélicoptère vient de se poser. Le second le fait aussi. Tout cela vraiment à quelques mètres de la foule qui est contenue par une chaîne humaine de policiers palestiniens. Autour de nous, je vois beaucoup d'hommes et de femmes qui ont les larmes aux yeux, qui ont salué ces hélicoptères en agitant leurs bras. Un grand moment d'émotion. Les hélicoptères se sont posés en ce moment des tirs d'armes automatiques pour saluer cette arrivée du cercueil de Yasser Arafat sur cette esplanade. Et je dois dire que pas mal de gens actuellement préfèrent peut-être se mettre à l'abri, ce que nous faisons aussi car ça tire dans tous les sens. Là nous nous mettons à l'abri, nous sommes sur un toit d'une maison palestinienne vraiment toute proche de cette esplanade. Beaucoup de gens se couchent au sol. Frédéric Barrère.
Oui, la police palestinienne a beaucoup de mal visiblement à retenir les milliers de Palestiniens qui ont pu pénétrer.
Les hélicoptères sont pris d'assaut par la foule actuellement.
Et la foule est à côté, peut-être même en train d'essayer de monter à l'intérieur.
Il faut imaginer cette esplanade qui est
envahi par une foule d'au moins 20 000 personnes, totalement survoltées maintenant parce que ces hélicoptères ont pu se poser. Tout ça se fait dans les cris, dans les pleurs, dans la douleur. Et effectivement, on ne voit pratiquement plus de police palestinienne, mais on ne voit plus que des gens qui approchent. Et on ne voit plus même un espace de sol dans l'enceinte de la Moukata. Il y a du monde partout. Il y a du monde partout. On ne me distingue même plus le sol et les tirs qui continuent.
Voilà pour cet incroyable écho des funérailles de Yasser Arafat il y a 15 ans. Merci aux documentaristes de l'INA qui nous ont fait parvenir cette pépite. Et aujourd'hui, les anciens bureaux et le bunker d'Arafat à Ramallah, eh bien, c'est devenu un musée qui reçoit 5 à 7 000 curieux chaque mois. 40% sont des visiteurs étrangers. En ce 11 novembre, si vous êtes à Paris ou dans la région, voici une idée d'exposition. Le Gréco au Grand Palais, l'un des peintres les plus étranges de la Renaissance. Mais Isabelle Pasquier, vous disiez en titre, beaucoup plus moderne que sa réputation ne le dit. Hein.
Oui, parce que les couleurs sont vraiment électrisantes et on se dit, mais et si ce peintre fin de la Renaissance était finalement un artiste expressionniste et pop bien avant Andy Warhol? En tout cas, c'est ce sentiment que l'on a face à une ivresse de couleurs qui enflamme littéralement l'étoile. Alors vous savez, Gréco, c'était un artiste extravagant, insoumis. Il a quand même osé critiquer Michel-Ange, juste aussi Léonard de Vinci. Et il s'est carrément fait mettre à la porte de Rome. Et là, après, il va connaître enfin la gloire à Tolède. Son style, il est reconnaissable au premier coup d'œil. Effectivement, avec des rouges incendies, des rouges, des verts complètement électriques, des jaunes citrons, des visages anormalement allongés, des regards totalement hallucinés. Alors tout de suite, avec Guillaume Kienz, qui est le commissaire de l'expo, on va lever les yeux vers la monumentale toile de l'Assomption de la Vierge.
C'est encore un Gréco complètement italien qui construit sa peinture par la couleur à la vénitienne et qui en même temps se souvient de la force plastique de Michel-Ange quand il a vu les œuvres à Rome. Ce qui est fascinant, c'est qu'avant ce tableau, Gréco n'avait plutôt peint, à part quelques portraits, des tableaux de petit format. Et là, d'un coup, à 36 ans, il s'élance sur une gigantesque toile de plus de 4,50 m de haut. Au niveau des couleurs, c'est un vertige, c'est un feu d'artifice qui donne une impression de vertige face à cette grande toile.
Alors, vous savez, beaucoup de légendes, de fake news circulent autour de Gréco. Il aurait été complètement dingue, astigmate, hyper mégalo, je vous l'ai dit, il a osé critiquer quand même Michel-Ange et Léonard de Vinci. Tous ces modèles seraient des pensionnaires sortis d'un asile, l'asile de Tolède. Mmh. Il est tombé en désuétude, même carrément dans l'oubli pendant 2 siècles, avant d'être reconnu, notamment par les impressionnistes. Cézanne, Picasso, Eisenstein, Bresson et même Godard, une sacrée belle revanche.
Et l'exposition Gréco, c'est au Grand Palais jusqu'au 10 février 2020. Les quelques informations sur ce tremblement de terre dont nous parlions au tout début de ce journal, la terre qui a tremblé entre Drôme et Ardèche ce matin, secousse ressentie aussi à Grenoble et Avignon. Les pompiers drômois et ardéchois submergés par les appels. La terre a tremblé vers midi selon le réseau national de surveillance sismique, midi moins 10. 5,7 sur l'échelle de Richter à Aubenas, 5,4 à Montélimar. On ne sait pas encore mesurer précisément les dégâts. Pour l'instant, dans la Drôme, pas de gros dégâts recensés. Des maisons fissurées au Treil, près de Montélimar, dans l'Ardèche. Évidemment, on mesurera plus précisément les dégâts au fil des heures cet après-midi.
La météo avec Bleu Forêt, le fabricant français de chaussettes pour hommes. Toutes naturelles. Cachemire, fil d'Écosse, soie ou coton, et maintenant en lin. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Élodie Calac.
Une bande pluvieuse arrose les régions allant du sud-ouest vers le nord et les Ardennes. Elle se décale assez rapidement et touchera les régions de l'est ce soir. En montagne, c'est de la neige autour de 1000-1400 mètres. Un peu plus bas ce soir vers les Vosges et le Jura, 800 mètres. Entre les Alpes et la Côte d'Azur, on a des averses toujours plus nombreuses et orageuses en Corse. Enfin, sur le nord-ouest de la Bretagne et des Charentes, vers le Pas-de-Calais puis la région parisienne, on retrouve un ciel de traîne avec des éclaircies plutôt belles, quelques averses plus fréquentes et orageuses sur la Normandie. On a aussi du vent jusqu'à 60 km à l'heure, 90 sur les côtes. Les températures sont un peu en dessous des moyennes de saison, 5 à 10 degrés dans l'est, 10 à 14 à l'ouest, 13 à 18 près de la Méditerranée. Demain, on gardera pas mal de nuages et aussi quelques averses.